La Bibliothèque Orbitale, saison 3, épisode 2. Lundi 7 janvier est une journée à ne rien faire. Je me réveille vers midi avec un mal de tête tenace et l'impression d'avoir percuté de plein fouet un 15 tonnes. Tout va bien, pas de panique, je suis à bord de ma station spatiale russe abandonnée, en orbite autour de la Terre, je suis calme et serein, je n'entends pas les bruits de la rue au loin, ce serait absurde, il n'y a pas de rue. Histoire de bien commencer la journée, je débouche une première bouteille de la Lande Pomerol et je pioche au hasard dans ma pile de livres à lire, d'où j'extrais Marvel Comics The Untold Story de Sean Howe, paru fin 2012 aux États-Unis chez HarperCollins. Marvel Comics The Untold Story est donc l'histoire du fameux éditeur de bande dessinée américain, auquel on doit des personnages aussi célèbres que Rocket Raccoon, Hypno Hustler ou Fin Fang Foom, mais aussi quelques autres comme Spider-Man, Hulk, Captain America ou les X-Men. Sean Howe démarre son récit dans les années 30, mais c'est en 1961 que tout va réellement commencer pour Marvel, avec la parution du premier numéro de Fantastic Four, série créée par Stan Lee et Jack Kirby. Et c'est le début d'une révolution. De la petite maison d'édition au bord de la faillite au début des années 60, jusqu'au rachat par Disney en 2009, Sean Howe nous fait vivre dans Marvel Comics The Untold Story un demi-siècle d'histoire de la bande dessinée aux États-Unis et son évolution. Une histoire souvent conflictuelle. Les années 60 sont ainsi pour Marvel celle de tous les succès et de la création de la plupart des personnages qui font encore son succès aujourd'hui. Mais dans les coulisses, les choses ne sont pas aussi roses que ce que le discours officiel voudrait nous faire croire. Les relations entre d'un côté Stan Lee, principal scénariste et homme orchestre de la maison Marvel, et de l'autre Jack Kirby et Steve Ditko, les artistes qui ont créé et illustré la quasi-totalité des super-héros Marvel de cette époque, ces relations ne vont cesser de se détériorer au fil des ans, jusqu'à pousser les deux dessinateurs vers la sortie, laissant Stan Lee seul maître à bord. Les années 70 voient un agréable vent de contre-culture souffler sur Marvel, avec l'arrivée de jeunes scénaristes et dessinateurs pour qui super-héros et psychotropes hallucinogènes vont très bien ensemble. Ce sont les héros cosmiques de Jim Starlin, c'est Steve Englehart qui introduit une bonne dose de politique et de contestation sociale dans les séries les plus conservatrices de l'éditeur, c'est Steve Gerber et son héros Howard the Duck qui font la satire de l'Amérique de cette époque. C'est l'arrivée de super-héros noirs et de super-héroïnes qui ne se contentent plus de faire de la figuration. Mais s'ils parviennent à renouveler le genre et à ancrer davantage l'univers des super-héros dans le monde réel, tous ces créateurs auront beaucoup plus de mal à défendre leurs droits face à une industrie qui continue de les considérer comme de simples ouvriers et continue de s'arroger la propriété intellectuelle de leur travail et d'engranger l'essentiel des bénéfices. Sean Howe nous fait ensuite revivre l'ambiance de paranoïa aiguë qui flottait dans les locaux de Marvel dans les années 80, sous la houlette de Jim Shooter, directeur de publication qui n'a pas laissé beaucoup de bons souvenirs chez la plupart de ses anciens collaborateurs. Puis c'est l'arrivée au début des années 90 d'une nouvelle génération de dessinateurs, les Jim Lee, Todd McFarlane, Mark Silvestri et autres Rob Liefeld, des artistes qui vont faire exploser les ventes chez Marvel, avant de partir en chœur fonder leur propre maison d'édition, Image Comics. C'est aussi le marché des comics qui devient une bulle spéculative totalement délirante, bulle spéculative qui va finir par exploser et amener l'ensemble du secteur au bord du gouffre. C'est enfin l'arrivée de Joe Quesada et Bill Gemas à la tête de Marvel, qui vont tenter au début du XXIe siècle de relancer la machine, avec l'aide de quelques auteurs de talent tels que Grant Morrison, Peter Milligan ou Ed Brubaker. Et puis arrivent les premiers véritables succès cinématographiques qui vont faire de Marvel la nouvelle poule aux œufs d'or que certains vont se disputer à coups de milliards de dollars. Sean Howe réussit à rendre toute cette histoire vivante et passionnante. Pour qui lit régulièrement les revues américaines consacrées aux comics, Marvel Comics The Untold Story ne devrait pas leur apprendre grand-chose de nouveau, hormis quelques anecdotes ici ou là. Mais Sean Howe a réussi un remarquable travail de synthèse, et son livre ne se lit pas, il se dévore.
We don't know, won't find out until we grow home. Well, I don't know if that's all true. You got me, and baby, I got you. I got you, babe. I got you, babe. They say love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. Maybe so, we don't have a plot. I am sure of all the things we got. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. If I get weak, you're always around.
Mardi 8 janvier est une journée à ne rien faire. Je me réveille vers midi avec un mal de tête tenace et l'impression d'avoir percuté de plein fouet un autobus bondé. Tout va bien, pas de panique, je suis à bord de ma station spatiale russe abandonnée, en orbite autour de la Terre. Je suis calme et serein, je n'entends pas les gens frapper à ma porte, ce serait absurde, il n'y a pas de gens. Histoire de bien commencer la journée, je débouche une première bouteille de pinot noir et je pioche au hasard dans ma pile de livres à lire, d'où j'extrais Sauvagerie de J.G. Ballard, qui vient de reparaître dans ma nouvelle collection souple des éditions Tristram. Sauvagerie est l'histoire d'un massacre, celui de 32 personnes qui vivaient dans un lotissement pourtant ultra sécurisé, baptisé Pangborn Village. Des hommes d'affaires, des PDG de grosses boîtes, des personnalités du showbiz, tous froidement exécutés un matin d'août 1988. Plus étonnant et peut-être plus inquiétant encore, tous les enfants qui vivaient à Pangborn ont disparu, sans qu'aucune demande de rançon ni revendication n'ait été transmise aux autorités. Alors que la police est dans l'impasse, le docteur Richard Greville, psychiatre, retourne sur les lieux du crime pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Sauvagerie est un roman tellement court qu'on parlera plutôt de novella. Ballard y met en scène une tuerie de masse comme il s'en produisait déjà il y a 25 ans, et pas seulement aux États-Unis. Ballard ne joue pas vraiment la carte du suspense dans ce récit. On se doute assez vite de qui est responsable de ce massacre, et la confirmation nous parvient à peu près à la moitié du bouquin. Ce qui intéresse l'auteur ici, c'est surtout ce qui a pu provoquer un tel carnage et un tel passage à l'acte, dans un environnement en apparence idéal, paisible, luxueux et sécurisé. Comme souvent dans son œuvre, Ballard identifie certains phénomènes sociaux contemporains à l'œuvre et pousse jusqu'au bout les conséquences et les dérives possibles qu'il y perçoit. Dans Sauvagerie, il va très loin, jusqu'à l'absurde le plus monstrueux. C'est exagéré, évidemment, mais ça n'enlève rien à la pertinence de ses extrapolations. Et le récit fonctionne d'autant mieux que Ballard a opté pour un style froid et descriptif, dont la retenue ne fait que souligner l'horreur de cette histoire. Ce qui, au final, nous donne un très bon Ballard. Mercredi 9 janvier est une journée à ne rien faire. Je me réveille vers midi avec un mal de tête tenace et l'impression d'avoir percuté de plein fouet un tractopelle. Tout va bien, pas de panique, je suis à bord de ma station spatiale russe abandonnée, en orbite autour de la Terre, je suis calme et serein, je n'entends pas les gens sonner à ma porte, ce serait absurde, il n'y a pas de sonnette. Histoire de bien commencer la journée, je débouche une première bouteille de Saint-Émilion et je pioche au hasard dans ma pile de livres à lire, d'où j'extrais Mad, ma vie, l'autobiographie de Jean-Pierre Peters, le créateur de la revue Mad Movies. Pour qui lit Mad Movies depuis des lustres, comme c'est mon cas, Mad, ma vie est une lecture aussi agréable que frustrante. Agréable parce qu'on est content de passer 200 pages en compagnie de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, mais qu'on a l'impression de connaître depuis longtemps, avec lequel on partage un certain nombre de passions, et parce que son histoire nous fait revivre des périodes qu'on a connues, et d'autres qu'on aurait aimé connaître. C'est aussi un bouquin assez frustrant parce que, le plus souvent, Jean-Pierre Peters s'y montre trop anecdotique. Ses jeunes années, ses premières amourettes adolescentes, son service militaire, oui, c'est gentil, mais tellement banal qu'on s'en fout un peu. Plus frustrant encore, dans la première partie du livre, le grand absent, c'est le cinéma. Alors oui, on a droit à une rapide visite des principaux cinémas de quartier parisiens de l'époque, et à une énumération des premiers fanzines consacrés au cinéma de genre, mais tout ça reste assez superficiel. Des films qui l'ont fait vibrer à cette époque, qui l'ont durablement marqué, on ne saura à peu près rien. La deuxième partie du livre est consacrée aux 130 numéros de la revue qu'il a publiée, et là encore, on reste sur sa fin. Passé les premiers numéros où il évoque les conditions homériques dans lesquelles la revue était bricolée avec les moyens du bord, la suite est nettement moins intéressante, Jean-Pierre Peters se contentant trop souvent d'énumérer les principaux films figurant au sommaire. On aurait aimé en savoir davantage sur les conditions dans lesquelles la revue était élaborée, les rencontres avec les acteurs et les réalisateurs, ce genre de choses. On en apprend souvent davantage à travers l'intervention de quelques-uns de ses anciens collaborateurs qui se sont fondus dans un petit hommage pour l'occasion. Bref, Mad Mavie n'est pas Mad Movies The Untold Story, et c'est bien dommage. En tant que Madeleine de Proust, le livre fonctionne plutôt bien, mais n'y cherchez surtout pas quelque chose de plus consistant.
And we won't find out until we go.
I don't know if all that's true, but you've got me, and baby, I've got you.
Baby, I've got you, baby.
Jeudi 10 janvier est une journée à ne rien faire. Je me réveille vers midi avec un mal de tête tenace et l'impression d'avoir percuté de plein fouet une moissonneuse batteuse. Tout va bien, pas de panique, je suis à bord de ma station spatiale russe abandonnée en orbite autour de la Terre. Je suis calme et serein, je n'entends pas les voitures circuler dehors, ce serait absurde, il n'y a pas de voiture. Histoire de bien commencer la journée, je débouche une première bouteille de Bourgogne ligotée et je pioche au hasard dans ma pile de livres à lire, d'où j'extrais L'antre de la Hammer de Marcus Hearn, qui vient de paraître aux éditions Aquileos. L'antre de la Hammer, sous-titré Les trésors des archives de Hammer Film, nous propose de revivre l'histoire de ce mythe du cinéma fantastique à travers une sélection d'environ 80 films et de reproductions de divers documents d'époque, photographies d'exploitation, affiches publicitaires, extraits de scripts, d'articles ou de dossiers de presse. Le livre, un grand format à l'italienne, est somptueux, et le contenu est franchement passionnant. Depuis Le Monstre en 1954, premier film de la série des Quatermass, jusqu'à Let Me Heal en 2009, Marcus Hearn nous raconte donc plus d'un demi-siècle d'histoire de la Hammer, ses plus grands succès comme ses pires échecs. Entre anecdotes de tournage et réception critique de l'époque, le texte permet souvent d'aborder sous un angle inédit certains films, ou d'en découvrir d'autres tombés dans les oubliettes de l'histoire du cinéma depuis belle lurette. L'ordre chronologique adopté par l'auteur permet également de suivre l'évolution non seulement de la compagnie, mais également des mœurs de l'époque, de voir la censure se faire un peu moins stricte au fil des ans, et par exemple les actrices se dénuder un peu plus d'année en année. Et en matière de choix d'actrice, la Hammer savait faire preuve d'un goût certain. Martine Beswick, Ingrid Pitt, Raquel Welch, Ursula Andress, Olinka Berova, Caroline Monroe ou les sœurs Collinson, elles sont à peu près toutes là, en chair et en tenues affriolantes, voire sans tenue du tout. Excusez-moi, c'est l'émotion. Marcus Hearn consacre également un chapitre passionnant aux projets de la Hammer qui n'ont jamais vu le jour, et au vu de certaines affiches, on se met à rêver de ce à quoi aurait pu ressembler Zeppelin contre Ptérodactyle, Nessie, ou l'adaptation sur grand écran du personnage de Vampirella. Bref, pour les amateurs de films fantastiques, L'Antre de la Hammer, c'est 180 pages de bonheur en technicolor, et c'est à ne rater sous aucun prétexte.
Baby, I've got you. Yes, indeed, now, babe.
I got you, babe.
vendredi 11 janvier est une journée à ne rien faire. Je me réveille vers midi avec un mal de tête tenace et l'impression d'avoir percuté de plein fouet un Airbus. Tout va bien, pas de panique, je suis à bord de ma station spatiale russe abandonnée, en orbite autour de la Terre, je suis calme et serein. Je n'entends pas mon voisin bricoler avec sa perceuse, ce serait absurde, il n'y a ni voisin ni perceuse. Histoire de bien commencer la journée, je débouche une première bouteille de Crémant d'Alsace et je pioche au hasard dans ma pile de livres à lire, d'où j'extrais dans mes veines le premier roman de Morgane Cossarieux, paru en septembre dernier chez Mnemos. A priori, dans les veines n'est pas vraiment le genre de bouquin fait pour moi. Et je crois même avoir ricané à la lecture de la quatrième de couverture, où il est question en vrac de piercings et de tatouages, de réputation sulfureuse et de choquer la société bien pensante. Et puis bon, après une discussion avec Charlotte Volper, qui a publié le roman, et qui en parlait avec un enthousiasme et une admiration sincère, sans même essayer de faire la retape auprès du premier critique qui passe, en l'occurrence moi, après surtout un détour du côté de Quoi de neuf sur ma pile, l'excellent blog littéraire que tient Gros Mauvard, qui a consacré une longue critique au roman et réalisé une interview vraiment passionnante avec son auteur. Bref, après tout ça, je me suis dit que j'allais peut-être mettre mes a priori de côté 5 minutes et jeter un œil sur ce bouquin. Et finalement, j'ai bien fait, vu que, oui, c'est vrai, Dans les veines n'est pas le genre de roman fait pour moi, n'empêche que c'est pas mal du tout. En deux mots, l'histoire est celle d'une petite bande de vampires qui sème la terreur du côté de Bordeaux, et d'une gamine mal dans sa peau qui va tomber amoureuse de l'un d'entre eux. Dit comme ça, ça ressemblerait presque à du Twilight, sauf que Morgane Cossarieux va prendre un malin plaisir tout au long du roman, à tordre le cou à tous les clichés romantico-neuneux de la bitlit actuelle et à asperger tout son petit monde d'hectolitres d'hémoglobine, de foutre et de sécrétions corporelles diverses. Les influences de Morgane Cossarieux, on les cherchera plutôt du côté d'Âme perdue de Poppy Bright ou de Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, avec leurs vampires marginaux et définitivement rock'n'roll. Les vampires que met en scène l'auteur sont des prédateurs sans pitié, amoureux, narcissiques et particulièrement monstrueux. Morgane Cossarieux les fait évoluer dans un univers qu'elle semble connaître sur le bout des doigts, celui de la scène gothique et des soirées Batcave, où ces créatures se retrouvent comme des poissons dans l'eau. Face à eux, Lily est une adolescente qu'on a souvent envie de gifler, et que pourtant on ne peut s'empêcher de trouver émouvante tant elle est fragile, mal dans sa peau, et surtout tant sa vie est un cauchemar perpétuel. Le portrait que fait d'elle Morgane Cossarieux est particulièrement juste, et nettement plus fin qu'on ne pourrait croire à première vue. Et puis, Dans mes veines va parfois vraiment loin dans l'horreur et le sordide. Qu'elle mette en scène un meurtre, un viol ou une longue séance de torture, Morgane Cossarieux n'élude rien et décrit ses scènes dans leurs moindres détails, aussi peu ragoûtant soit-il. Elle n'a de cesse de se placer aux antipodes de ce que le genre est devenu aujourd'hui, ce qui ne se fait pas sans une bonne dose d'outrance et de mauvais goût. Dans les veines souffre quand même de quelques défauts. Une écriture un peu trop fonctionnelle et pas toujours à la hauteur de ce qui est décrit, des personnages secondaires traités parfois avec une certaine condescendance, sans oublier une enquête policière assez ridicule dans son déroulement. C'est parfois gênant, mais jamais rédhibitoire. N'oublions pas non plus que Dans les veines est un premier roman, que Morgane Cossarieux n'a que 24 ans, et qu'au final les qualités du livre compensent plus que largement ses défauts. Et donc oui, en effet, Dans les veines n'est pas vraiment le genre de bouquin fait pour moi, n'empêche que je ne regrette pas un instant sa lecture. Samedi 12 janvier est une journée à ne rien faire. Je me réveille vers midi avec un mal de tête tenace et l'impression Et merde. Ok, c'est bon. J'y vais. J'ouvre la porte et je sors.
I got you. I got love.